France Inter.
Bonjour, ici Eva Bester. On continue de célébrer la musique classique avec la pianiste Shani Di Luca pour évoquer son parcours et le concert qu'elle a donné à la Philharmonie de Paris sous le titre Métamorphose. Au programme Minimalisme, Dessin et Franz Kafka. Les virtuoses du classique, épisode 3, Shani Di Luca. Archétype de la grâce, la pianiste Shani Di Luca, enfant prodige à Monaco, qui fit son premier récital à 9 ans et la première partie d'un concert d'Hélène Grimaud à 12, n'a rien perdu de sa superbe, comme le démontre sa carrière prolifique et éclectique. Il y a évidemment ses enregistrements de Beethoven, Mendelssohn ou Edvard Grieg, mais aussi Schubert, notamment sur le très beau disque « Des fragments aux étoiles », des ragas indiens embrassant Beethoven déjà cité et un album consacré à Proust, regroupant tous les compositeurs aimés par l'écrivain et cités dans la recherche. Il y a aussi des livres disques pour enfants autour de Chopin et de Babar avec Nathalie Dessay, deux recueils de poèmes, Canopée et les silences de Schubert publiés aux éditions Artois Plessis, des visites en centre pénitentiaire, des concerts sur toute la surface du globe et des cours, puisque Shani Di Luca enseigne à l'Académie de musique Régnier III à Monaco. Dans le sillage de son dernier album Pulse, paru en avril 2023 et consacré au grand nom au sens large de la musique minimaliste, la pianiste a interprété un florilège enrichi de ses pièces, de Philip Glass à John Cage en passant par Moondog ou Meredith Monk à la Philharmonie de Paris en décembre dernier. Accompagnée sur scène par le dessinateur et auteur de bande dessinée Mathias Lehmann, l'événement avait tenté de traduire sur scène la métamorphose de Kafka sous un titre minimaliste lui aussi, Métamorphose au pluriel. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Shani Di Luca.
Bonsoir Eva.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Alors je crois que c'est peut-être une obsession quotidienne de trouver l'équilibre. Alors j'avais fait un poème sur l'équilibre des fleuves, en fait le point d'équilibre avec les tournants, les méandres et puis les moments où ça va tout d'un coup de façon fluide. Et c'est aussi une obsession dans la musique allemande par exemple, de l'équilibre entre la raison et la passion. Et je crois que tous les jours c'est une lutte, cet équilibre entre la raison et la passion, et je veille à trouver cet équilibre qui n'est pas facile, surtout en ce moment, dans le monde qui va si mal, je dois dire.
Vous avez tout de même fait des progrès dans ce domaine ?
Alors je crois qu'il y a des hauts et des bas, comme le fleuve. Il y a des moments où tout d'un coup il y a des tourbillons, et puis il y a des moments où on reprend la quiétude, on a le temps de regarder les arbres passer. Mais je dirais que c'est un travail de tous les jours pour chacun d'entre nous de trouver cet équilibre qui apporte une certaine sérénité. Et je dois dire que mon métier m'aide à m'accompagner dans ce chemin.
Mais par exemple, j'imagine que quand on fait face à plein de tourbillons, il y a un moment où on sait un peu plus comment se positionner quand le tourbillon arrive.
Oui, en tout cas, il y a des compositeurs qui ont donné l'exemple. Quand on voit Beethoven, par sa surdité, la fatalité de sa vie, lui qui avait des grandes ambitions et qui, la moitié de sa vie, ne va pas entendre sa musique. Et dans ce tourment et dans cette obscurité, il va croire en la lumière quoi qu'il arrive, au fait que l'art élève, l'art rassemble. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on retrouve la foi et l'équilibre et parfois on a l'impression de marcher sur l'eau. Et Beethoven, justement, a trouvé cet équilibre entre l'obscurité et la lumière. Et ses dernières œuvres, on sent même, je dirais, le paradoxe entre l'homme et le dieu, en fait, ce mythe prométhéen de l'homme qui vole le feu aux dieux. Donc c'est toujours une question d'équilibre entre des forces contradictoires.
Quel est le dernier morceau de musique que vous avez écouté, Shani Di Luca ?
Alors là, j'écoutais malheureusement ma propre musique. C'était une pièce de Schubert, en andante. Et sinon, j'aime beaucoup écouter toutes sortes de musiques. Je pense qu'il n'y a pas de musique classique où il n'y a que des grandes musiques qui me touchent. Ça peut être Mercedes Sosa, ça peut être Juliette Gréco. Et donc là, j'ai réécouté Mercedes Sosa, justement, grâce à La Vida.
Si la métamorphose était possible, en quoi aimeriez-vous vous transformer ?
Mais justement, je crois que le fleuve me conviendrait, c'est-à-dire celui qui épouse la terre et qui finalement se transforme au fur et à mesure, qui creuse aussi la terre et qui, au gré du temps, il y a une sorte de connivence entre les éléments. Et j'aimerais être un fleuve, oui.
Shani Di Luca, le 16 décembre dernier, vous étiez sur la scène de la Philharmonie de Paris pour le concert Métamorphose où vous interprétiez au piano des morceaux minimalistes accompagnés par le dessinateur et auteur de bande dessinée Mathias Lehmann. Analysons ces trois informations dans le désordre.
Un matin,
Au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveille, transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse. Et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, divisé par des nervures arquées.
D'abord, le court roman fantastique de Franz Kafka, publié en 1915, La Métamorphose, dont on entend un extrait lu par Claude Rich en 1969 sur France Culture. Comment avez-vous pensé à ce texte et quel est le lien, Shani Di Luca?
Alors, le lien est assez évident puisque mon programme autour des minimalistes est surtout ancré autour de la figure de Philip Glass. Et Philip Glass est inspiré de la métamorphose de Kafka pour écrire Métamorphosis. Ensuite, la raison qui m'inspire, c'est qu'on connaît tous la métamorphose sans la connaître. On a tous rencontré, même adolescents, souvent pour la plupart, ce roman qui se lit très facilement. Mais il y a toute une symbolique qui, à mon avis, résonne de façon très moderne aujourd'hui, plus que jamais. Déjà, cette idée de l'homme qui se transforme en insecte. Alors, quand on regarde la vraie traduction allemande, c'est assez ambigu. Il n'y a pas vraiment, ce n'est pas vraiment défini. Donc, le mot de vermine, ça peut être tout à fait... En fait, c'est un monstre qui n'existe pas. Et d'ailleurs, Kafka ne voulait pas qu'on le dessine. Donc c'est un paradoxe aussi dans notre travail de donner une forme à tout ça. D'ailleurs, c'est une erreur parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont dessiné des sortes d'insectes voilà, qui représentent Gregor Samsa. Et en fait, on comprend que ce personnage arrive dans cet état déjà parce qu'il a subi une forme d'automatisation, de déshumanisation de la société, donc qui rend Kafka très visionnaire à cette époque-là. Et puis on se rend compte que l'écoute profonde de cette humanité est de moins en moins présente. Et d'autant plus par sa famille qui l'entoure, qui ne compte sur lui que pour justement subvenir aux besoins. C'était la figure principale pour que sa famille puisse vivre. Et il y a sa sœur Greta qui est un peu son binôme, qui l'adore. Il a une tendresse infinie. Et ça va être la descente aux enfers de ce personnage qui va se révéler. Pour moi, il y a un moment clé qu'on oublie d'ailleurs. C'est au moment où sa sœur Greta joue du violon. Vers la fin du roman. Et il est tellement émerveillé par la beauté de l'art, la beauté de la musique, qui sort de cette cachette. On l'a vraiment mis de côté avec les meubles, la poussière. Il a été complètement rejeté par sa famille. Il mangeait des restes. C'est très, très violent, en fait.
Mais c'est un livre d'horreur. Hein, je l'ai relu cette année. On pleure, mais on est horrifié.
C'est terrible. Et en même temps, je crois que l'homme est capable du pire comme du meilleur. Oui. Et là, on le voit dans cet album, dans ce livre, en quelques pages. Et c'est vraiment bouleversant de voir cet être étrange qui sort de sa cachette parce qu'il est attiré par le son du violon de sa sœur, qui l'encourage d'ailleurs à continuer. Sauf que là, tout le monde le voit pour la première fois, les locataires qui ont pris la place pour faire vivre la famille. Et on voit qui est le vrai monstre, en fait. Qui est le vrai monstre? Qui sont les vrais monstres? Ceux qui vont le répudier, et sa propre sœur qui va le mettre à mort à ce moment-là. Et Kafka, Grégor s'en va et va se laisser mourir. Et on va se rendre compte que la beauté du monde est dans le regard de Grégor. C'est peut-être lui le plus humain de tous. Et ça fait vraiment réfléchir.
Je suis émue en vous entendant reparler de cette scène. Je me souviens de cette scène, en effet, où tout le monde essaye de communiquer avec lui. Il n'arrive pas non plus à communiquer. Il ne répond d'ailleurs à aucune tentative de communication. Et le seul moment d'union et de communication, c'est par la musique.
Tout à fait.
Shani Di Luca, vous êtes sur scène avec Mathias Lehmann, qui a fait paraître Chumbo chez Casterman. Très belle bande dessinée sur l'histoire du Brésil. Que fait-il sur scène et comment est née votre collaboration?
Alors, on a travaillé bien en amont depuis des mois. C'est la Philharmonie de Paris qui nous a mis... ensemble, disons que l'idée, c'est un nouveau cycle qui s'appelle Récit, et de mettre en relation la musique classique avec d'autres arts pour éclairer le monde. De façon très humble, l'idée, c'est de rendre société ces concerts de musique classique pour toutes les générations, parce que là, il y aura des enfants, des parents. Donc, c'est un roman qui est assez sombre, mais qui est accessible, je pense, à plusieurs niveaux de lecture.
Oui.
Il y a beaucoup de symbolique. Par exemple, dans le roman de Kafka, il y a trois portes, il y a trois clés, il y a trois locataires. Il y a quelque chose comme ça d'automatique, il y a un rythme. Et on a essayé de trouver ce rythme-là dans les dessins avec Mathias. Donc, il a préparé beaucoup de planches différentes selon les scènes.
De la métamorphose.
De la métamorphose. Et tout en ayant cette idée que c'est souvent très philosophique. Et quelques titres comme un film muet.
Pas projeté sur un grand écran.
Un grand écran. Et tout au long du concert qui va durer à peu près 50 minutes de musique minimaliste, justement, le rythme des minimalistes qui est assez hypnotique va accompagner ces dessins et le sens et l'histoire de ce roman par des dessins très vivants, parfois des planches déjà préparées, d'autres qui vont être dessinées pendant le concert et quelques phrases clés pour comprendre le propos de Kafka.
Et enfin, la troisième information que j'ai promis d'analyser, c'est la musique. Shani Di Luca, vous jouez au piano plein d'œuvres qui figurent sur votre dernier album Pulse, mais aussi des choses inédites.
Oui, tout à fait. En fait, il y a des pièces de glace, Flow, par exemple, le Tirol Concerto, où j'ai fait des arrangements pour piano solo. L'idée, c'est que toute la trame du récit de Kafka puisse justement accompagner le rythme des minimalistes, qui en fait est un mouvement qui est né justement au moment de consumérisme américain, de ce côté à nouveau, ce danger qui nous rend passif, c'est-à-dire l'automatisation. Alors aujourd'hui, on pourrait parler des smartphones ou de l'information qui nous rend complètement parfois indifférents. Et c'est la lutte contre cette indifférence que j'essaye de faire aussi par la musique. Ces grands compositeurs minimalistes, que ce soit John Cage, donc ça peut être Terry Riley, Steve Reich, tous... Meredith Monk, ils ont essayé justement de mettre en avant cette connexion à quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel, tout en décrivant le danger de l'automatisation pendant l'époque de Woodstock, où il y a eu une vraie réaction. Donc c'est une musique qui est née à l'époque de Woodstock et qui résonne finalement avec le même processus critique que Kafka.
Et voici justement Meredith Monk. Railroad. Nous parcourons le chemin de fer de la compositrice, chanteuse, réalisatrice, danseuse américaine Meredith Monk. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle, Shani Di Luca ?
C'est une figure fascinante parce qu'elle a touché des mondes différents. Elle était à Juilliard School, donc elle a une connaissance aiguë de la musique et de toute l'histoire de la musique. Et en même temps, elle a un côté très expérimental parce qu'elle a fait aussi beaucoup de choses autour de la voix. Et au piano, il y a peu de pièces. Et celle-là, je trouve qu'elle donne ce sentiment de voyage, j'adore l'idée qu'on soit dans un train et qu'on regarde la vie qui passe, le temps qui passe, le passé, le futur. Et justement, Meredith Monk a cette connexion avec une certaine réalité et en nous emmenant aussi dans notre propre introspection.
Alors, gardons l'introspection, mais fuyons la réalité. Morceau de 1948 de John Cage, Dream, Rêve. Qu'est-ce que ça vous évoque, Shani Di Luca ?
Pour moi, John Cage, c'est vraiment le compositeur qui a peut-être révolutionné l'écoute. Il nous apprend à écouter le silence et le silence qu'il y a entre les notes, l'espace qu'il y a entre les notes. Souvent, c'est comme dans la poésie, en fait, il y a les mots, mais il y a tout ce qui se passe entre les mots, comme un regard entre deux personnes. Et je trouve que sa musique nous rentre dans ce domaine d'ailleurs de la méditation. Il était très proche du Japon. Il y a toute cette mouvance, d'ailleurs, que j'ai découverte a posteriori sur la relation à l'Orient, à cet Orient, justement, méditatif, quand on sait que Glass a rencontré Ravi Shankar et que John Cage a expérimenté ses musiques presque proches du koto japonais. Et là, en l'occurrence, Dream, le rêve, on part dans des phénomènes presque intemporels où on écoute ça comme de la méditation. Donc c'est aussi une des richesses de cette période, c'est de rentrer dans une intemporalité et d'être suspendu l'espace d'un moment. Et cette pièce l'est vraiment, en l'occurrence.
C'est vous qui jouez, hein, je le précise pour les auditeurs. On a pris des extraits de votre dernier album, Pulse. Et là, on change de rythme. Philippe Glass, Mad Rush, Folle Ruée, composé en 79 et interprété à l'orgue par Philippe Glass lors du discours du Dalai Lama de 1980 à New York, précisément lors de son entrée dans la cathédrale Saint John the Divine. Ce que ça m'évoque, c'est la mélancolie du temps qui se hâte. Il faut dire aux gens qu'on les aime, il faut donner ses mots de passe informatiques avant de disparaître et d'être un fantôme qui regarde ceux qu'il a quittés en flottant au ralenti. Et vous, Shani Di Luca, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Moi, j'aime beaucoup votre imaginaire.
Il est triste.
Mais il est triste, mais il y a une tristesse, il y a une mélancolie du temps qui passe, du temps qui fuit. Et je crois que c'est peut-être ça le plus important. Dans cette musique-là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la sédimentation. C'est comme si toutes nos vies intérieures, notre enfance, nos souvenirs, tout d'un coup se cristallisent et puis on en sort l'essentiel. Et il y a cette idée de battement intérieur de sa propre âme. Et en phase avec le battement du cœur du monde, il y a la pulsation du monde. Et moi, je les appelle des chamans des temps modernes parce qu'il y a vraiment cette manière de nous interpeller dans notre intériorité, mais de nous connecter au monde, aux étoiles, aux forêts, au son de la pluie. Et donc, c'est quelque chose qui est très fort. Alors qu'il est fait pour le Dalai Lama, c'est aussi, c'est étonnant parce que la pièce s'appelle Mad Rush. C'est-à-dire que c'est le contraire du bouddhisme, ça c'est vraiment une fuite en avant. Et pourtant, parce qu'après ça explose à l'intérieur, il y a une sorte de cascade de notes. Et puis on revient dans une sorte de musique épurée à la fin, comme si on avait retrouvé l'essentiel. Et je me dis qu'une écoute qui nous permette d'aller dans toutes ces sédimentations, de les transformer, peut-être de les sublimer, les plus douloureuses comme les plus heureuses, c'est peut-être le but de mon métier.
Vous avez un rapport spirituel à la musique, Shani Di Luca. Est-ce que vous arrivez à parfois à entrer dans la transe que vous décrivez justement au sujet des minimalistes ?
Oui, je crois que c'est vraiment une écriture de transe, je dirais, puisque quand je joue du Beethoven ou du Mozart ou du Bach, il y a une complexité architecturale, il y a peut-être même, je dirais, des montagnes qu'on gravit. Alors là, je dirais que dans les minimalistes, on est dans un flux permanent qui nous rentre, et d'ailleurs, eux-mêmes étaient très conscients de cette idée de transe, vraiment. Et je crois que à un moment donné, toutes les grandes musiques nous ramènent en transe, que ce soit la dernière fugue de Beethoven ou ces minimalistes. Mais il y a ce mouvement vraiment répétitif, d'ailleurs qui est un peu réducteur, ce mot répétitif, et même le mot minimaliste est réducteur parce que chacun a un style très différent. Mais c'est une écriture qui nous permet de rentrer dans une dimension, oui, spirituelle très forte. Et j'ai remarqué qu'en concert, c'était encore plus puissant, puisqu'il y a une sorte de communion de cette transe qui me dépasse. Et souvent, le public, à la fin, m'évoque des choses qui, tout d'un coup, ils ont eu des visions. Et je sais que cette musique, elle est puissante.
Shani Di Luca, voici un autre morceau que vous jouerez sur la scène de la Philharmonie et qui figure sur votre album Pulse. Il est signé d'un homme qui inventa son surnom en 47 en l'honneur d'un chien qui hurlait à la lune bien plus que tous les chiens qu'il connaissait. Qu'est-ce qu'on entend, Shani Di Luca ?
Alors c'est Barn Dance, donc de Moondog, et c'est une danse justement très intéressante parce que Moondog est arrivé à faire une sorte de compromis entre le baroque et la musique amérindienne, ce qui est quand même extraordinaire. Et à nouveau, c'est un être extraordinaire puisqu'il était presque un SDF à New York, et c'est Philip Glass qui l'a rencontré, qui l'a ramené dans son cercle, qui l'a sauvé en quelque sorte. Il était aveugle et il passait son temps à écouter, à être assis dans un banc avec les pigeons. Donc c'est vraiment un poète des temps modernes. Et puis, comme vous disiez, avec ce chien hurlant à la lune, c'est aussi un hommage au titre des Amérindiens, comme un prêtre, à nouveau, cet esprit de la nature et ses premiers aborigènes en Amérique. Et Moondog a cet hommage profond de cette nature et de l'esprit de la nature.
Oui, un sacré personnage qui frayait avec Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, Allen Ginsberg, Lenny Bruce... et Burroughs. Et alors voici maintenant Shani Di Luca en version piano, l'hommage des Daft Punk au génial Giorgio Moroder, repris par vous, adapté par vous. Giorgio by Moroder des Daft Punk, comment l'avez-vous adapté, Shani Di Luca ?
Alors déjà, la musique électro, moderne, a une résonance particulière avec les minimalistes. Et c'est vraiment ce côté répétitif, trance. Et je me suis dit que dans les mélodies qui sonnaient parfaitement au piano comme une toccata de Bach, c'était cette pièce de Giorgio. Et d'ailleurs, j'étais très, très touchée parce que les Daft Punk ont adoubé la transcription. Je sais que Thomas Bangalter en a parlé sur Radio France d'ailleurs. Et donc, c'était une belle surprise pour moi de voir qu'ils ont écouté et adoubé ces transcriptions que je me suis permise de faire au piano.
Et alors, pour le plaisir, l'original. Et là, je ne peux pas m'empêcher de rendre hommage à Laure Adler avec la musique du générique de L'Heure Bleue au piano, adaptée par vos soins, Shani Di Luca, c'est Very Disco des Daft Punk. C'est si beau et ça rend bien mélancolique.
Oui, oui, c'est une musique... Alors déjà, il y a le génie des Daft Punk avec les harmonies qui sont belles et que à n'importe quel tempo résonne en nous. Mais là, avec le son du piano, alors j'ai choisi vraiment ce côté au départ contemplatif qui se transforme avec la sève de la vie qui reprend. Mais quand je l'improvisais au départ, j'essayais de trouver cette couleur. Et en fait, on la trouve pas, elle arrive d'elle-même. Et je revoyais mon enfance, je revoyais... Vraiment, il y a ce côté... D'ailleurs, dans le clip de Daft Punk, c'est un dessin animé. On voit vraiment, c'est un dessin animé style Albator de l'époque, manga japonais. Mais c'est le monde qui se délite et qui est sauvé par la musique. Et voilà, je trouve que c'est une belle métaphore.
On y revient toujours. Shani Di Luca, sur cet album, on trouve aussi une de vos compositions, Shimmers, Chatoiement. Thank you. Shani Di Luca, vous composez depuis petite?
Oui, j'ai toujours composé. C'était peut-être même ma première forme d'expression dès l'âge de 6 ans. Et j'étais même, je dirais, à 11 ans, voilà. On disait que c'était le futur Mozart, il y avait un reportage. Et au final, ça me dépassait tout ça. Et quand j'ai commencé à rencontrer Mozart, Schubert...
Vous l'avez rencontré, Mozart? Comment oui. est-il alors dans la vie?
Tous les jours, ils étaient là dans ma chambre.
Et... Sont-ils sympathiques?
Parfois, oui, et parfois, ils nous contredisent, ils nous secouent. Et ça me va très bien, cette cohabitation permanente.
Met-il avec... des perruques?
Alors non, non, non.
Ah bon?
Non, parce qu'en fait, derrière la perruque, moi, je vois leur vrai visage. Je vois pas leur...
Vous voyez à travers les perruques, Shani Di Luca.
Voilà.
Quel talent.
Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter de composer parce que je trouvais que c'était tellement...
Écrasant,
extraordinaire, et que je préfère être au service de ces génies, de les défendre aujourd'hui, même pour les nouvelles générations, de leur montrer à quel point c'est beau et profond, d'autant plus que mes parents n'écoutaient pas la musique classique, donc je suis convaincue qu'on peut approcher ces musiques. Et là, dans cet album, je me suis aventurée à mettre une composition qui, en plus, résonnait avec les minimalistes, parce qu'il y a cette main droite répétitive, comme un voyage, notre personne qui mène la vie, et puis la main gauche qui change d'harmonie, qui change de couleur, comme notre âme parfois, et qui traverse des moments... Donc cette pièce, elle est vraiment... Oui, elle représente un petit peu le minimalisme, mais aussi ma vie.
Là, vous venez d'évoquer vos parents, Shani Di Luca. Vos parents sont Sri-Lankais. Vous vous êtes née à Monaco et vous dites que la musique a été le refuge de votre déracinement. Vous dites aussi qu'avant, à chaque retour du Sri Lanka dans l'avion, le chagrin vous envahissait.
Oui, c'était des pleurs déchirants. Et assez inexplicable en fait. Je crois que les pleurs d'enfants, d'adieu à des mondes qui sont si contrastés. Pour moi, c'était un vrai choc permanent de passer d'un côté de Monaco qui m'a donné la chance de la culture, de rencontrer les plus grands, d'écouter les plus grands musiciens, hommes de théâtre, orchestre, et puis de l'autre côté d'arriver au Sri Lanka qui avait une dimension complètement spirituelle, liée à la nature, aux choses simples, prendre le temps d'écouter, puis des modes de vie qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment tout sauf matérialistes. Et je crois que ça m'a sauvée d'être entre ces deux mondes et d'essayer de trouver une identité. Et c'est vrai que la musique a répondu à cela.
Il paraît qu'au Sri Lanka, ce n'est pas l'homme qui est médium ou vecteur d'une dimension surnaturelle, c'est l'instrument lui-même.
Oui, alors je ne sais pas où vous avez...
Je vous cite.
Ah, j'ai dit ça, je me souvenais plus. Oui, je crois qu'en fait, déjà, il y a toute cette pensée ayurvédique où on dit que l'homme est le canal entre la terre et les étoiles. D'ailleurs, mon grand-père se soignait avec des herbes médicinales parce qu'il disait qu'il n'y a que la nature qui peut nous soigner puisqu'on fait partie de la nature. Alors, bien sûr que la science a fait des progrès et heureusement que la médecine a fait des progrès, mais je crois que ce lien qui nous rend très humbles, d'être juste le canal entre la terre et le ciel, c'est quelque chose qui peut nous mettre aussi un peu de recul face aux angoisses profondes qu'on peut avoir, et face à ce monde aussi, et puis se dire que, pour moi, la musique, c'est pareil, je suis un canal qui incarne ces notes de musique, qui sont des choses abstraites, pour les faire vivre en concert ou dans un disque. Donc ça rejoint peut-être cette philosophie, oui.
Vous avez aussi fait un mélange de continents, Shani Di Luca. On va écouter un extrait de votre album Cosmos, qui mélange Beethoven et des ragas indiens.
Justement, cette relation entre ces deux musiques peut paraître audacieuse. Et pourtant, alors évidemment, mes professeurs du Conservatoire de Paris ou mes grands maîtres de la musique allemande auraient pu être choqués. Et au final, ce qui est très émouvant dans ce projet qui m'a en fait attrapée, c'est surtout Beethoven lui-même qui, dans ses écrits, dans ses correspondances, a recopié les Upanishads venus d'Inde avec son ami Goethe. Ils se sont précipités en 1816 dans les premières traductions venant d'Orient.
Alors j'aurais aimé être avec eux et passer la soirée avec eux.
Mais oui, alors il paraît qu'il y avait des soirées extraordinaires justement où ils avaient cette fascination de l'Orient comme une inspiration, de l'autre comme une construction, alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans la méfiance, on se rend pas compte de la richesse que ça peut apporter. Et Beethoven donc a recopié des textes sacrés ancestraux donc dans ses carnets, a souligné, surligné des mots comme l'homme, le dharma et puis l'éther. Comme si on était vraiment entre plusieurs strates. Et on voit que cet homme était d'une humanité extraordinaire. On pense souvent que c'est un misanthrope, mais il essayait de garder un lien universel. Et cette expérience m'a prouvé que c'était possible, ce dialogue entre deux musiques qui sont en fait des grandes musiques sacrées. J'ai voulu qu'on respecte ces deux musiques, c'est pas de la fusion, c'est vraiment un dialogue. Et en analysant avec mes amis indiens, donc un grand sitariste, un grand tabliste, l'idée c'était de voir qu'en fait la structure est la même dans les sonates de Beethoven et dans les ragas indiens, c'est exactement la même structure. Et il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent plutôt qui nous divisent. C'est aussi le but de mes disques, de nous rappeler de ces grandes cultures, quand elles dialoguent, en tout cas quand il y a une élévation, il y a beaucoup de choses qui nous unissent, et donc il y a une universalité qui est évidente. Et là c'est une preuve de plus par ces deux grandes musiques.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient les chiens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter.
Juliette Gréco, le morceau Utile dans Grand Canal sur France Inter, c'est votre choix, Shani Di Luca.
Oui, alors, dès que j'entends cette chanson avec la voix de Juliette Gréco, elle me donne des frissons parce qu'elle interpelle plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'il y a évidemment l'idée d'être utile à vivre et à rêver. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire avec mon métier de musicienne sur scène. Il y a aussi le contexte de cette chanson qui a été écrite au moment de la dictature de Pinochet, où elle a rencontré justement les révolutionnaires. Et je me dis qu'aujourd'hui, cette émotion quand elle dit les poings serrés, regardant la lune, je me dis que cette émotion pour la liberté, elle est si importante. Les démocraties sont si fragilisées et on se rend pas compte peut-être de la violence de ces dictatures. Et dans cette chanson qui paraît mélancolique, elle a ce cri de ces démocraties si précieuses qu'on doit préserver.
Justement, en pensant au titre Utile, Shani Di Luca, vous êtes rendue au centre pénitentiaire de Meaux-Choconin pour faire écouter Schubert à des détenus. Vous les avez fait écrire et ils ont lu leur texte devant 2000 personnes au théâtre du Châtelet.
Oui, c'est une aventure incroyable qui a été initiée par déjà la directrice des projets culturels, Irène Mouscari, à la prison de Meaux-Choconin, et puis Olivier Frege, qui est metteur en scène. Mais l'idée, c'était au départ de leur faire découvrir Schubert. Donc j'avais imaginé le voyage d'hiver, c'était pendant le confinement, d'ailleurs, on a commencé à travailler. Et évidemment, ils s'inscrivent dans ce projet sans vraiment savoir, ils ne connaissent pas la musique classique pour la plupart d'entre eux. Et au final, ce qui était très émouvant, c'est de voir leur découverte de Schubert. Alors au début, on voit qu'ils sont désemparés. Et puis, le voyage d'hiver, c'est aussi une métaphore de la nuit, puisque de la vie même d'ailleurs, puisqu'on commence par Gute Nacht, bonne nuit. On traverse la nuit et après, chaque mélodie est un paysage. Il y a le rêve emprisonné, le rêve de printemps, le rêve de glace. Et puis, on va jusqu'à la fin où il y a un orgue de barbarie et qui est un peu la mort. Donc, c'est un voyage initiatique. Et je leur ai demandé simplement de faire leur voyage en écoutant la musique, en commençant par leur nuit, puisqu'ils ont traversé la nuit, évidemment, pour se retrouver dans cette situation. Souvent, c'était longue peine. Et je me dis que, à nouveau, la force de la musique, c'est exactement être utile. Et aussi, comment dire, exorciser leur propre obscurité. Donc, en écoutant Le Voyage d'hiver de Schubert, ils ont traversé leur nuit, ils ont énoncé leurs rêves, leurs regrets. Et c'est une sorte de thérapie sans lettres. Et leurs textes ont été si puissants qu'on s'est retrouvés sur la scène du Châtelet devant 2000 personnes. Ils ont appris leurs textes par cœur grâce à des comédiens qui ont fait tout un travail extraordinaire. Et puis, le metteur en scène les a mis vraiment en avant.
Il n'y a pas eu de... Personne n'a pris la fuite ?
Non, alors c'est toujours une angoisse. Mais il y a une histoire véridique hein, d'une pièce de Beckett en attendant Godot qui a été faite en Suède et ils ont pris la fuite.
Un prisonnier qui s'est échappé.
Mais tous, la dernière représentation.
Ils ont dit oui, bah, c'est parfait pour cette pièce.
Mais oui, en plus c'est parfait et c'est une histoire véridique. Évidemment qu'il y a cette angoisse puisqu'à chaque fois c'était extrêmement protégé, il y avait des protections policières. Alors bien sûr que la plupart déjà sont choisis pour leur profil et aussi, ils ont un comportement, ils sont en fin de peine, ils se sont réinsérés, puis ils ont envie de s'en sortir, mais c'est jamais évident, évidemment. Et là, devant 2000 personnes, ils ont tout d'un coup, ils n'ont pas réalisé être sur la scène du Châtelet, lire leurs textes. On les voyait transcender, se transformer aussi, tout d'un coup. C'est les mots qu'ils disent, qu'on les voit comme des êtres humains qui ont une capacité à devenir meilleurs. Et puis, par le biais de l'art, qu'ils n'ont jamais rencontré parfois, de voir que tout d'un coup, ils ont un moyen d'expression, parce qu'aussi, c'est donner la parole, de pouvoir s'exprimer enfin. Parfois, certains n'ont jamais pu s'exprimer. Ils sont exprimés par la violence. Donc, c'est une façon de croire en l'homme. Et ça, ça m'a donné une fois un espoir infini en l'homme. C'est ce genre d'expérience.
Chani Di Luca, est-ce que vous avez traversé votre nuit ?
Alors, je dirais que oui, je pense que je la traverse régulièrement. Je crois que c'est tout à fait... Je crois que la nature nous donne tout à fait l'exemple. Voilà, tous les jours, on a des jours et des nuits. Et tous les matins, il y a le soleil qui se lève comme un espoir. Voilà, un espoir qui est inhérent à notre vie. Et je dirais que la nuit fait partie de notre voyage. Et puis en même temps, la nuit c'est aussi l'obscurité, mais il peut y avoir toute cette idée d'étoile, il peut y avoir cette idée d'immensité. Donc la nuit, ça peut être aussi quelque chose de très bénéfique. Moi je suis insomniaque, j'aime beaucoup la nuit, j'aime écrire la nuit, parce que c'est un moment de création pour moi. Mes poèmes, je les écris souvent la nuit. Et donc cette nuit, alors plus ou moins sombre chez certains, je pense qu'elle fait partie du chemin. Et parfois, je pense que c'est important d'y faire face. Parfois, on la fuit aussi cette nuit. C'est pas toujours peut-être une bonne chose.
Ouais, oui, moi, si elle m'entend, c'est pas la peine de revenir. Ça va. Chani Di Luca, vous êtes insomniaque, mais comment vous faites pour tenir le rythme ?
Alors, je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis petite. Mes parents étaient allés voir un médecin pour voir si c'était normal que j'en mette 4 heures. Et c'est un métabolisme, a priori. Et j'ai pu avoir une double vie. J'ai fait une prépa Sciences Po, j'ai fait le Conservatoire de Paris. Ça me permet de lire, de voir des films. Donc j'essaie grâce à ça, de pouvoir m'inspirer de mille choses. Et peut-être, là, je suis en train d'écrire des nouvelles, par exemple, sur l'enfance.
Et pendant que vous me parlez, vous êtes en train de composer, d'ailleurs.
Voilà, exactement.
Et vous n'êtes pas trop fatiguée?
Alors, il y a des moments où c'est difficile quand on est en tournée, qu'on est en voyage, qu'on prend l'avion, et puis le train, puis un récital. Donc oui, c'est toujours un peu... On est au bord du précipice, je dirais. Mais ça fait partie de moi.
Je vous ai demandé... une petite découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi, Chani Di Luca, un extrait du monologue final de la pièce de théâtre Par les villages, du dramaturge et écrivain autrichien Peter Hanke.
Sois ébranlable, montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer, échoue avec tranquillité. Surtout, aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire. Mets-toi, pour ainsi dire, en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil.
Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon... Le voici seul et privé de son art.
On entend Albert Camus en 1957 lors de sa réception du prix Nobel de littérature. Chani Di Luca, vous considérez Camus comme l'un de vos piliers et recommandez d'écouter cette prise de parole sur la force de la littérature face au monde.
Tout à fait. Pour moi, Camus est une figure importante, d'ailleurs, qui m'a été révélée par Jean Daniel, le grand journaliste que j'ai eu la chance de rencontrer très jeune, qui m'a un peu initiée dans les forces de l'esprit, de l'observation du monde. Justement, il répondait à beaucoup de mes questions en étant entre l'Orient et l'Occident, lui aussi, en étant proche de Camus, m'a fait comprendre que l'homme et l'artiste peut être aussi citoyen, qu'on n'est pas dans notre tour de Babel et qu'on peut avoir concevoir un monde idéal, des rêves qui ne sont pas toujours connectés à la réalité. Et Camus nous montre justement la force de la littérature, le printemps des mondes, il nous fait espérer à un monde meilleur en écoutant l'humanité avec l'esprit critique, avec ce monde qui se transforme après la Seconde Guerre mondiale, sa propre histoire par rapport à l'Algérie, d'une famille qui était en plus illettrée. C'est vraiment un parcours extraordinaire et ses écrits sont tous inspirants parce qu'il a gardé le plus beau de ce qui reste de l'Algérie et puis cette connaissance, en fait, cet investissement pour être utile face à la société par le biais de la littérature. Et je crois que chacun de ces mots et ce discours de Suède représente bien ce qu'il est parce qu'il parle de littérature mais aussi de ce moyen d'expression pour rendre ce monde meilleur.
Shani Di Luca, je vous remercie à l'avance parce que grâce à vous, je peux passer un de mes morceaux préférés. Extrait du concerto pour piano numéro 4 de Bach, interprété par Maria Joao Pires, que vous avez rencontré, Shani Di Luca, et dont les conseils ont été précieux.
Oui, c'est une rencontre assez inouïe, puisqu'on a commencé, elle a commencé en fermant le couvercle du piano, en demandant quel était le sens de ce métier, pourquoi je voulais faire de la musique alors que j'avais 17 ans. C'était une question tout à fait... D'ailleurs, on était plusieurs, c'était une sorte de test pour voir pourquoi on faisait ce métier. Et ça a été frappant parce qu'en fait... Chaque note qu'elle joue, c'est une idée philosophique, c'est un rapport au monde. Et justement, elle nous montre la responsabilité qu'on a quand on joue une note de Bach, quand on est à l'écoute de cette musique, de cette harmonie. Bach, c'est vraiment l'architecte universel de la musique. Et puis avec quelques notes, cet équilibre parfait. Et pour cela, il faut une vérité. Alors, Rodin disait qu'il n'y a pas de beauté réelle. La beauté d'une peinture, la beauté d'une musique, c'est la vérité qui compte. Et c'est cette question qu'elle a posée. Quelle est la vérité que l'on met dans nos notes et que ce compositeur nous dit?
Et sur on disait, s'il y en a un qui doit tout à Bach, c'est Dieu.
Oui, absolument. Je suis d'accord.
Merci beaucoup, Shani Di Luca.
Merci, Eva Bester.
Cette émission a été réalisée par Lola Costantini et préparée par Céline Villegas et Laurie Nègre-Vergne. Programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Technique, Jérôme Ragano. Dans le prochain épisode, il sera question de Schubert, de Bach et de Rameau avec le chef d'orchestre, Raphaël Pichon.